française. Il est actuellement dans l'avion qui partit de Bucarest, le ramène en France. RFI 18h10, ici à Paris, à suivre Mardi Politique.
Radio G, Radio G, Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.
Sonia, j'ai pas assez d'une main.
Pour ?
Et pour compter jusqu'à 6.
C'est la 6e déjà ?
Et oui, et les inscriptions sont ouvertes. Alors chanteurs et chanteuses, c'est moment de tenter votre chance pour participer à Radiovision.
Pour que votre titre original passe en radio, rendez-vous sur radiovision.fr. Vous avez jusqu'au 18 avril. C'est gratuit et ouvert à toutes et tous.
Infos et inscriptions sur radiovision.fr.
Topette, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins sur Radio G.
Bienvenue dans Topette, la quotidienne de Radio G qui vous dévoile tout sur l'actualité locale. Hier, on était avec le Conservatoire d'Angers et demain, on sera en exposition photo avec J.D. Lemarié. Et enfin, on terminera la semaine jeudi avec le Quai. Et ce soir, j'espère que vous n'avez pas trop faim puisqu'on parlera d'épices avec Antoine Legros qui a créé son entreprise Épices Curieuses. Basée à Cornay, il propose plus de 550 références. Curry, sel, poivre, piment, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je vous propose de découvrir ça tout à l'heure. Et en deuxième partie d'émission, on sera cette fois en cinéma avec Jean-François Goujon qui a réalisé un film du nom de Hallucination, une intrigue policière qui passera aux 400 coups. Ça sera le 27 février, donc jeudi à 20h. Et ça sera présenté par Louis Mathieu, président du festival Premier Plan. Ce soir, on aura aussi Charles et son édito impro, en total impro pour le coup. On écoutera aussi un podcast des indépendantes angevines. Et Topette, c'est parti pour ce soir jusqu'à 19h.
18h10, 19h. Topette sur Radio G.
Mais juste avant tout ça, on va faire un petit point sur l'actualité locale avec toi, Emilien. Bonsoir Emilien.
Bonsoir Nolwenn.
C'est la fin de la grève au CHU d'Angers.
Dans un communiqué publié hier lundi 24 février, la direction de l'hôpital d'Angers a annoncé avoir trouvé une issue après 3 mois de grève intense du service de stérilisation. Les deux parties, la direction et le syndicat Force Ouvrière, affirment avoir signé un accord de sortie de grève. Fin de citation. À l'issue de 7 réunions de négociation, 4 nouveaux postes vont être créés. Le remplacement des absences sera assuré. Une nouvelle organisation du travail sera mise en place. Et la formation des nouveaux arrivants sera révisée pour le premier semestre 2025. Une requalification de certains postes est également prévue. Pour rappel, 70% du service de stérilisation s'était mis en grève prolongée début février en réaction au silence de la direction face à leurs revendications. La situation a évolué, mais pour l'heure, le syndicat Force Ouvrière reste prudent. Il s'agit d'une suspension et non d'un arrêt définitif de la grève. Nos collègues jugeront dans les faits si les engagements sont réellement tenus. Fin de citation.
Un accident mortel au sud d'Angers.
Ce triste événement est survenu dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 février à 1h du matin. Un jeune motard de 24 ans a perdu la vie sur la route départementale 748 au sud-est d'Angers à hauteur de Brissac-Quincé. Circulant en direction d'Angers-Brissac, le jeune homme serait seul en cause de l'accident après avoir perdu le contrôle de sa moto. Il a violemment heurté le terre-plein central et a été éjecté. À l'heure actuelle, les circonstances précises de l'accident ne sont pas encore connues. Il s'agit du 6e accident mortel sur les routes du Maine-et-Loire depuis le début de l'année.
Une nouvelle salle d'escalade maintenant va bientôt voir le jour à Angers.
Ce nouvel édifice dont la date d'ouverture devrait être annoncée d'ici à septembre va s'installer dans les anciens locaux de la Unicorn House du youtubeur Vodka, placé en liquidation judiciaire depuis début janvier. Cette bâtisse d'environ 4000 m² initialement dédiée au BMX et au skateboard accueillera désormais une nouvelle salle d'escalade de l'entreprise Arcos. Située au 331 avenue du Général Patton, elle n'occupera cependant qu'une partie de l'espace total. Il y est prévu évidemment des murs d'escalade mais aussi un large espace de restauration. Ce nouveau centre de grimpe angevin deviendra la 30e salle de la franchise Arcos en France.
Et Et juste avant d'accueillir notre invité de ce soir, une petite annonce si vous êtes fan de musique de rock. Notez bien la date du 1er mars, c'est à cette date qu'aura lieu le festival Les Hérons Mat-le-Son à Saint-Mathurin-sur-Loire. Et deuxième annonce, Cour et 49 proposera sa troisième soirée de Cour en Folie saison 3. Ça sera le 3 mars à 20h au Folie Angevine. Et nous, on peut tout de suite accueillir notre invité.
L'invité de Topette sur Radio G.
Je le disais, donc on parle cuisine et plus particulièrement épices avec vous, Antoine Legros. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le fondateur de l'entreprise Les Épices Curieuses. Tout à l'heure, alors, on parlera des défis auxquels on peut être confronté quand on monte une entreprise. Tu nous dévoileras aussi peut-être quelques conseils culinaires ou les tendances en termes d'épices. Mais avant tout ça, si on s'intéresse à votre entreprise, est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter qu'est-ce que c'est Les Épices Curieuses?
Sans aucun problème. Les Épices Curieuses, en fait, on a conçu l'entreprise il y a 3 ans maintenant. On est parti moi, je suis un grand fan de cuisine au sens large. Et en fait, on a voulu créer justement une marque d'épices de qualité. On n'est pas forcément GMS, on n'a pas forcément envie des grandes surfaces, mais par contre, on veut vraiment créer un produit de qualité, majoritairement bio. En tout cas, pour nous, c'est hyper important. Mon meilleur testeur, il a 2 ans et demi, c'est mon petit garçon qui s'appelle Jules. En fait, on veut vraiment proposer vraiment ce gage de qualité au niveau des épices. On part des épices les plus brutes, les plus nobles possibles pour justement transformer vers des assemblages. J'ai ramené un échantillon d'assemblage qu'on pourra regarder un petit peu tout à l'heure. Et voilà, c'est nos produits phares aujourd'hui sur lesquels on se positionne vraiment très très bien. En quelques mots, les épices curieuses, voilà ce qu'on propose.
Et d'où ça vient justement cette passion pour les épices, le piment, le poivre? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui vous a amené à créer cette entreprise?
L'élément déclencheur, c'est un voyage en Inde. En fait, je suis parti 3 ans sur un coup de tête à l'origine. J'avais un poste en France, je m'éclatais plus. Voilà, j'ai dit c'est bon, je pars. Je suis parti 3 ans là-bas. Là-bas, le curry, c'est matin, midi et soir. Le piment, c'est matin, midi et soir. Et au retour de France, en fait, j'avais retrouvé un job dans l'informatique. Et puis au final, au bout de quelques années, je me suis dit, je crée ma boîte et j'ai créé les épices curieuses. Et on est parti de ce principe, on disait tout à l'heure, d'épices, du piment, du poivre, du sel et autres, en partant de l'Inde.
Et c'est quelque chose que, du coup, vous utilisez peut-être beaucoup dans votre cuisine personnelle aussi?
Faut pas regarder le tiroir à épices.
Il est immense, j'imagine.
Ouais, on a pas mal de références produits ou autres qu'on utilise au quotidien.
Du coup, votre entreprise, elle est basée à Cornet, dans le Maine-et-Loire, et elle propose donc des épices biologiques, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Pourquoi ce choix du bio?
Premier choix, c'est un choix de qualité. Alors, je dis pas que le conventionnel n'est pas de qualité. Bien au contraire, aujourd'hui, on arrive à avoir des produits de super bonne qualité. Simplement que le bio, en fait, aujourd'hui, c'est aussi un engagement complémentaire par rapport à l'éthique de l'entreprise. Et vis-à-vis des fournisseurs, des clients avec qui on va travailler, c'est hyper important pour eux puisqu'ils sont labellisés bio. Donc, si moi, je suis pas labellisé bio, je peux pas leur vendre des produits. Tout simplement.
Et si on parle un petit peu maintenant plus du processus, un petit peu de création des mélanges, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu comment ça fonctionne? Comment vous alliez dans vos recettes un petit peu de tradition et innovation?
Le premier point à savoir, c'est quand on crée des épices, en tout cas des assemblages d'épices, le nez est hyper important. C'est ce que j'explique à mon fils. On travaille avec les yeux, on travaille avec le nez, on travaille avec le goût. Les yeux, c'est le premier point. C'est-à-dire que si on a un joli visuel, c'est hyper intéressant au niveau des produits. Si le curcuma, il est bien marqué, qu'il est bien jaune, qu'il a ce petit goût floral, c'est hyper intéressant. Donc là, on rentre dans la phase où on commence à avoir le goût. Et après, on va être sur le nez, où justement, à l'odeur, on va avoir vraiment toutes les aromates et toutes les épices qui vont prendre le relais. Donc c'est hyper important de travailler, en tout cas, sur ces 3 axes-là. Et quand on crée, en fait, on va créer un produit, on part d'une recette classique. Par exemple, l'histoire toute bête, ça va être le poulet rôti de mamie que j'ai créé, où j'ai mis ma grand-mère au défi en lui disant, mémé, je voudrais que tu me donnes ta recette du poulet rôti. Sa réponse, c'était non, je l'emmènerai dans la tombe. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je me mets au défi. Je vais créer cette recette-là et sa réponse, je ne peux pas le dire à l'antenne, mais c'est une réponse d'ancien où elle m'a juste fait remarquer que j'avais fait du bon travail.
Eh bien, c'est parfait. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer, du coup, comment on conçoit des mélanges? Est-ce qu'il y a des critères de sélection, par exemple?
Critères de sélection, pas forcément. On va vraiment créer un produit qui va correspondre à une recette au maximum. Après, on détourne souvent, et c'est souvent ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment détourner le produit qu'on a créé sur d'autres utilisations. Un curry peut être très bien travaillé sur une sauce, mais aussi sur une vinaigrette. On pense pas souvent à se dire on va tester sur d'autres choses, mais en fait l'idée c'est vraiment on peut détourner sans aucune difficulté un assemblage qu'on va créer. Là par exemple j'ai ramené l'assemblage basque, il peut être travaillé à la fois avec de la viande, avec des légumes, avec des œufs, avec une vinaigrette. En fait, il n'y a aucune restriction. La seule restriction qu'on va avoir, c'est nous, sur ce qu'on a envie d'en faire.
Et donc, vous avez plus de 550 références, vous avez un catalogue hyper diversifié. Quel type de produits vous proposez? Quel type d'épices?
Aujourd'hui, notre point fort, ça va être les currys et les assemblages. Après, on va avoir des épices, ce qu'on appelle nous les épices brutes, donc la badiane, le cannelle bâton, ce genre de choses, le curcuma, le gingembre. Mais derrière, notre plus grande force va être vraiment sur les assemblages. Donc après, on va créer des sels, on va créer différents poivres. Là, par exemple, on a sorti un poivre qui s'appelle le poivre médiéval, donc une base de 3 poivres du Sri Lanka, pardon, avec de la coriandre et de la moutarde jaune et moutarde noire, ce qui est vraiment un mélange très sympathique en bouche, qui change un petit peu du poivre classique qu'on peut tous connaître aujourd'hui.
Et comment vous faites pour guider vos clients dans leur choix? Parce qu'avec un tel nombre d'épices, peut-être qu'on est un peu perdu. Comment on fait pour s'y retrouver? Quels conseils vous auriez à donner?
Alors ça, je l'accorde pleinement. Ce qu'on a mis en place, en fait, il faut savoir que nous, on fait quasiment tout sur Internet. Mais par contre, en parallèle, j'ai un réseau de boutiques avec qui je travaille, entre autres sur Angers. Et en fait, l'idée, on a développé, en fait, je suis développeur à la base, donc j'ai mis en place un système de filtres plus avancé que ce qu'on avait au préalable, justement pour guider les gens. Et il faut savoir aussi que sur chacun des sachets qu'on fait aujourd'hui, on met le petit conseil et l'astuce. Donc c'est-à-dire qu'en fait, notre force va être le produit, mais aussi la notion de conseil qu'on retrouve à la fois sur le site, sur les échanges qu'on va avoir, sur les événements qu'on va faire, mais aussi en parallèle sur le sachet, ce qui permet d'avoir la continuité.
Et s'il y a une épice ou un mélange que vous aimeriez conseiller au grand public, qui est pas forcément très connu, peut-être un petit peu sous-côté, qu'on n'utilise pas, mais qu'on devrait.
Alors, il y en aura deux. Le sumac, que pas beaucoup de personnes connaissent, même 3. Sumac, graine à roussir et le curry de Bombay. Le sumac, il a une petite acidité en bouche qui est vraiment sympa. La graine à roussir, en ayant vécu un peu à l'étranger, on connaît pas du tout ça en France. C'est un mélange en fait de 3 graines. La moutarde, du fenugrec et du cumin. C'est délicieux avec une huile bien chaude, ça prend le temps de travailler. Et derrière, le curry de Bombay, qui est un des currys les plus subtils qu'on peut faire, qui est très agréable en bouche, pas trop de piquant. Ça, c'est hyper important. Dire que mon fils en mange sans aucun problème. Donc normalement, on peut y aller sans aucune difficulté. Et on est vraiment sur cette notion de subtilité en bouche. C'est-à-dire que toute la composition va vraiment travailler en bouche. Et c'est pas juste un ingrédient qui prend le dessus par rapport au reste. Voilà, c'est les trois produits que je peux conseiller aujourd'hui sans problème.
Et est-ce que vous avez des produits phares dans votre entreprise? C'est lesquels que vous vendez le plus?
Le curry de Bombay, le curry retour d'Inde, le zaatar libanais avec un petit clin d'œil à un de mes chefs avec qui je travaille. Alors aussi, ce que j'ai pas forcément expliqué, c'est qu'on travaille aussi avec un chef, avec plusieurs chefs qui nous permettent de valider nos recettes. C'est-à-dire que nous, on connaît nos produits, mais derrière, je préfère le faire valider toujours par un de mes chefs, ce qui me permet vraiment de garantir que le produit est très, très qualitatif. Et là, en l'occurrence, c'est un de mes chefs qui m'a validé le zaatar en me disant qu'il n'a pas trouvé meilleur que le mien, quoi. Donc voilà, ça fait plaisir quand on se dit, tiens, je crée un produit. J'aime pas trop la prétention, pas du tout, mais en tout cas, je suis assez content d'avoir ce genre de retour en me disant que le produit est créé, il est bon.
Oui, quand il est validé par un chef, c'est sûr que c'est toujours mieux. Antoine, vous restez avec nous, on va faire une petite pause musicale sur le 101.5 FM. On va écouter One Life de Festen. écoutez One Live de Festen sur le 101.5 FM. Et vous êtes toujours à l'écoute de Topette. On est toujours avec Antoine Legros, fondateur des Épices Curieuses. Et du coup, tout à l'heure, on parlait des retours des clients, justement. Est-ce que des retours de clients, tu as pu en avoir ?
On en a, on les écoute et on améliore. En fait, souvent, les clients vont me dire, bah, moi, par exemple, je peux pas manger avec du sel. Ok, ça marche. Bah, on va chercher un produit, on va essayer de trouver un produit qui va permettre justement à ce client, en l'occurrence, de pouvoir se faire plaisir avec des épices de qualité sans sel. Et là, en l'occurrence, c'était une dame qui me disait gentiment, si je mange ne serait-ce qu'un gramme de sel, je pars aux urgences et ma vie peut être mise en danger. Waouh. Donc, on se dit, ok, bah, on va pas jouer là-dessus, bien au contraire. Et donc, en fait, je lui dis, bah, vous me laissez quelques jours, je vous crée un mélange, justement, sans sel. Donc, c'est le sel d'épices qu'on lui a créé, qui est une base d'aromates. Il y a plein de petites épices à l'intérieur qui sont broyées finement. Donc, c'est une vraie poudre. Et son retour, ça a été, je peux enfin remanger une pizza avec des épices. Et ben, là, pour moi, c'est le meilleur retour que je peux avoir aujourd'hui, pour mes clients.
Et si on regarde un petit peu les sachets, regardez hors antenne, si tu peux nous décrire un sachet, à quoi ça ressemble? C'est un sachet un petit peu marron, il y a des conseils derrière au dos. Comment il est fait?
Les sachets donc sont faits, donc c'est du craft avec une fenêtre donc qui permet de voir le produit. On a deux étiquettes. Alors faut savoir que tous les sachets, nous c'est que du fait main. C'est-à-dire que le tampon, les épices curieuses, c'est un tampon que je fais main. L'étiquette, elle est faite main. Et en fait, sur chaque étiquette, on apporte justement toute la composition puisqu'on n'a aucun souci de transparence. Bien au contraire, et on préfère être transparent. Et derrière, en fait, sur chaque sachet, on va apporter ce qu'on appelle le petit conseil. Donc, c'est le conseil du chef ou le petit conseil complémentaire. Je prenais l'exemple tout à l'heure du poulet rôti de mamie. On va expliquer qu'on va le travailler trois fois. Une fois en démarrage de cuisson, une fois au milieu de cuisson et une fois en fin de cuisson.
C'est important pour vous, ça, l'éducation culinaire, entre guillemets. Est-ce que vous auriez des petits conseils aux amateurs qui veulent apprendre à cuisiner avec des épices, qui n'ont jamais trop cuisiné avec des épices?
Eh ben, qui viennent me rencontrer et on pourra leur donner toutes les astuces. J'ai souvent des clients et des clientes qui me disent, moi, je suis soit sur de la perte de poids, mais en perte de poids, souvent, on va pas forcément mettre d'épices parce que les épices, ça peut être calorique ou autre, ce qui est totalement faux en soi. Donc, ce que je leur dis, ben, venez me voir, on discute, on regarde ensemble ce qu'on peut proposer. Et souvent, quand on va être sur des choses un peu particulières, on a une perte de goût qui peut se faire. Et chez nous, c'est avec le goût, ce qu'on disait un peu en off tout à l'heure, le goût est hyper important. Quand on annonce la couleur, c'est vraiment le goût qui est marqué derrière, quoi. Donc au contraire, venez me voir sur les événements. Alors, je vais pas dire suivez-nous sur les réseaux, mais si vous voulez un conseil, vous nous contactez sur les réseaux. On apporte tous les conseils qu'on peut trouver et qu'on peut vraiment apporter. On est vraiment dans l'accompagnement.
On donnera tout ça, tous les réseaux, les sites internet en fin d'émission. Mais est-ce qu'il y a des erreurs qu'on peut faire en cuisine avec les épices? Est-ce qu'il y a des associations, des choses qui ne se marient pas? Ou alors, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de règle?
La seule erreur, ça va être ton palais. Si ton palais, par exemple, quelqu'un qui va manger pimenté mais qui va mettre trop de piment, du coup, il n'y a plus forcément cette sensation agréable en bouche du piment. L'erreur souvent qui va être faite, c'est le sel, si on veut en mettre. C'est souvent en fin de cuisson et jamais en démarrage de cuisson. Pareil, l'écurie, souvent les gens me disent, moi, je le mets qu'en démarrage de cuisson. Alors, c'est pas une erreur en soi. C'est même plutôt intéressant, mais ce que je vais plutôt conseiller, c'est avec les sucres de cuisson, quand on commence à avoir l'huile qui vient travailler, on met les épices à ce moment-là, surtout tout ce qui va être l'écurie. Les aromates, c'est vraiment sur la fin de cuisson, elles ne veulent pas être cuites, c'est interdit. Bah, c'est interdit. On va dire c'est pas interdit,
pas
mais
conseillé.
C'est pas conseillé, mais tout ce qui va être curry, démarrage de cuisson. Et moi, ce que j'ajoute toujours, c'est la petite touche de gourmandise en fin de cuisson. Le petit coup de peps juste avant de servir. On rajoute une petite touche et là, ça explose en bouche derrière.
Est-ce que on retrouve actuellement des tendances en matière d'épices, des choses qui sont plus utilisées qu'avant?
Alors, en ce moment, il y a une grande mode qui va être les sauces pimentées. Ça, moi, je travaille avec trois partenaires qui en font avec nous. Donc on a les sauces pimentées, on a les piments qui reviennent sur scène aujourd'hui, de plus en plus, à ma grande surprise, parce que les gens s'intéressent de plus en plus en disant que le piment c'est plutôt intéressant, c'est même très très bon. Et puis après on a la règle des 80-20, ça veut dire les 80% de classique, le paprika fumé, paprika doux, l'écurie et autres. Et on a cette tendance des 20%, on va aller sur ce côté un peu pimenté qui revient gentiment sur le devant de la scène aujourd'hui.
Et tout à l'heure, du coup, vous disiez, il y a des épices qui sont adaptées pour, par exemple, les personnes qui sont qui doivent manger sans sel et, par exemple, sans gluten. Est-ce que ça a aussi un impact, peut-être, dans vos recettes ou d'autres régimes alimentaires?
Alors, tous nos produits, c'est sans OGM, sans lactose, au maximum du possible. J'ai un produit aujourd'hui qu'on est en train de transformer, justement, parce qu'il y a un petit peu de lactose et ce qui m'embête un petit peu, donc on va le retravailler un peu différemment. Sans gluten, de mémoire, et je dis de mémoire, en étant sûr, j'en ai aucun au gluten, en tout cas qu'il y a des traces de gluten. Donc on fait attention à tous ces régimes-là, justement, pour faire en sorte que ça puisse toucher un maximum de personnes et pas être sur quelque chose de trop restrictif en disant, bah, on a une tendance, on va être sur tel produit. Non, c'est nous, on fait vraiment du produit on va dire, la consommation quotidienne pour faire en sorte que les gens puissent se faire plaisir avec des produits vraiment cool, quoi.
Essayer de toucher un maximum de personnes. J'imagine, si on revient un petit peu plus à l'entreprise en elle-même, est-ce que vous envisagez de la développer, de développer des nouvelles gammes?
Alors, développer l'entreprise, oui. Nous, ça fait 3 ans qu'on existe. Ça fait 2 ans, voilà, on est à fond sur la commercialisation des produits, la création et autres. On travaille avec un réseau de partenaires, donc France, surtout Maine-et-Loire, et encore en France aujourd'hui, dans lequel on va équiper les boutiques. Donc, on fait du démarchage. Et en fait, l'idée, moi, c'est de faire développer cette entreprise. Déjà, un, pour pouvoir justement embaucher derrière, puisque c'est aussi un indicateur qui, pour moi, est important. Justement, je ne veux pas travailler tout seul, il n'y a aucun intérêt. Par contre, de travailler avec plusieurs personnes, ça peut être vraiment intéressant. Je ne veux pas avoir une multinationale, en tout cas, ce n'est pas le souhait de l'entreprise. C'est vraiment de travailler sur ce côté artisanal, qui est hyper important pour nous. Donc voilà, un peu dans les grandes lignes, où est-ce qu'on va aller sur courant 2025-2026.
Et du coup, tu as créé ton entreprise en 2022. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui aimeraient lancer leur entreprise, se lancer dans l'entrepreneuriat?
Un conseil, oui. Ne pas écouter en disant, quand les gens te disent « ne crée pas ton business, tu verras, c'est pas cool ». Ouais, un business, c'est pas cool. Oui, en effet. Ça demande des heures, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'acharnement, c'est des erreurs. Mais au contraire, moi, je parle pas d'erreurs, je parle justement d'axes d'amélioration. On fait des petites choses, des fois, on se dit, tiens, ça paraît anodin, puis au final, ça marche hyper bien, ou on fait des flops, des fois. Mais en fait, l'idée de l'entrepreneuriat, justement, c'est de se casser les dents, de remonter, de continuer. Et c'est pas, par contre, de s'entêter dans un schéma où on voit que ça marche pas, et là, faut vraiment arrêter rapidement. Mais par contre, on peut se faire accompagner par les bonnes personnes, et ça, c'est hyper intéressant. Mais jamais tout seul.
Antoine, tu restes avec nous, on rappellera donc toutes les infos pratiques, où est-ce qu'on peut commander tout ça, le site internet tout à l'heure. Mais juste avant tout ça et avant d'accueillir notre second invité du soir, on va écouter un podcast des indépendantes angevines.
Les indépendantes angevines, la chronique des femmes qui ont sauté le pas de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vous parle de Sarah. Sarah a 35 ans et est pâtissière. Cela fait 3 ans et demi qu'elle s'est lancée à son compte et a fondé Colette Pâtisserie. Vous l'avez d'ailleurs peut-être déjà croisée sur son vélo ou goûté une de ses délicieuses créations. Sarah n'a pas toujours été auto-entrepreneur, ni même pâtissière. Son projet initial était de devenir professeure des écoles. Elle a eu son bac en 2007 et a poursuivi des études universitaires en décrochant d'abord une licence psychologique suivie d'un master en enseignement. Bien qu'elle réussisse les épreuves écrites du concours, elle ne valide pas l'oral. Ce n'est pas un obstacle majeur, car parallèlement, elle occupe un poste en contrat de service civique au sein de l'association La Fève à Poitiers, où elle accompagne des jeunes issus de quartiers prioritaires. Ses premiers pas dans la vie active sont une expérience humaine très forte pour Sarah. Une expérience qui l'a aidée à sortir de sa coquille et lui a surtout fait prendre conscience qu'elle souhaitait faire autre chose. Ça tombe bien, l'association a justement proposé à Sarah un emploi à temps plein en CDD, à La Rochelle en tant que gestionnaire de projet. Cependant, après 3 ans, elle ressent le besoin de changement. La vie de bureau où elle passe la majorité de son temps devant un ordinateur et en réunion ne lui convient plus. Elle décide donc de refuser le CDI qui lui est offert et s'envole pour le Kenya pendant 6 mois, où elle s'engage dans une mission pour une association écologique. Ce sera une expérience totalement dépaysante. Cette aventure lui offre également l'opportunité de prendre du recul et de réfléchir à ses aspirations pour l'avenir. Elle ressent le désir de se tourner vers des activités plus manuelles. Et pourquoi pas la pâtisserie? Depuis son adolescence, elle a toujours eu une passion pour ça. Affaire à suivre. De retour en France, Sarah reprend la gestion de la ruche, qu'elle avait déjà en parallèle de ses missions à l'association. Ah oui, c'est à ce moment-là que je vous perds. Bon, je fais une pause. La ruche fait référence au concept de la ruche qui dit oui. Une entreprise issue de l'économie collaborative qui met en relation les agriculteurs et les transformateurs alimentaires avec une plateforme en ligne et des points de vente physiques, donc les ruches, pour faciliter la vente en circuit court. Bon, alors j'en étais où? Ah oui, donc Sarah revient du Kenya, reprend la ruche et réalise un bilan de compétences qui la conforte dans son projet d'être pâtissière. C'est parti! Elle intègre un CAP en alternance pendant 1 an, puis en 2018, son diplôme en poche, travaille dans un coffee shop. C'est la période du Covid qui donne l'impulsion à Sarah de se lancer. Son compagnon est muté à Angers et elle sent que c'est le moment de créer son entreprise. C'est assez clair dans sa tête. Elle préfère commencer petit. L'idée du vélo arrive vite. C'est un concept sympa, novateur et écologique. Son expérience à la ruche l'a inspiré à s'engager dans le circuit court, en collaborant avec des partenaires et en utilisant des produits locaux. Elle tient à cœur de partager ses valeurs liées au bien manger et au locavorisme, tout en veillant à proposer des produits accessibles à tous à un prix équitable. Suite à un accompagnement de 6 semaines à la BGE, Colette voit le jour en janvier 2021. Pour Sarah, tout s'imbrique parfaitement. Ses valeurs, ses aspirations et son engagement. Elle est convaincue que seul l'entrepreneuriat pouvait lui offrir cette harmonie. Elle désirait créer quelque chose qui lui ressemble, qui lui soit propre et aspirait à l'indépendance. Pour elle, l'entrepreneuriat implique également de bien s'entourer et de bénéficier du soutien de son entourage. D'ailleurs, son petit conseil d'entrepreneur, ne pas oublier qu'il n'est pas possible de dire oui à tout et qu'il est essentiel de prendre du temps pour soi, surtout si on veut que ça dure. Vous pouvez retrouver Sarah, son vélo et ses douceurs. Deux saisons, elle s'y engage. D'ailleurs, en ce moment, vous pouvez goûter les muffins aux prunes sur le marché de la Place Lafayette à Angers ou alors dans certains salons de thé. Mais vous pouvez aussi la retrouver sur son compte Instagram, Colette Pâtisserie. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire inspirante d'entrepreneuriat au féminin.
Vous pouvez retrouver tous les podcasts des indépendantes angevines dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G. Et maintenant, on va pouvoir tout de suite accueillir notre deuxième invité du soir.
18h10, 19h, c'est Topette sur Radio G.
Bonsoir Jean-François Goujon.
Bonsoir Nolwenn.
Vous êtes réalisateur d'un film qui s'appelle Hallucination. Il a été produit et distribué par l'association Chemin Production. Il sera diffusé très bientôt le 27 février à 20h au 400 coups. Jean-François, est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter ce film? De quoi ça parle?
Alors le film, alors contrairement à ce qui a été écrit dans la presse, l'histoire ne se passe pas en 1920, mais au départ effectivement il y a un train qui est du début du siècle, mais l'histoire se passe dans 200 ans. C'est pas non plus de la science-fiction, au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucoupe volante, il n'y a pas de gens qui vont sur Mars, etc. Non, c'est plutôt une histoire qui raconte ce qui pourrait se passer en imaginant que on régresse, le mot est toujours un petit peu de un côté négatif, mais qu'on revienne à des fondamentaux. C'est-à-dire que la nature reprend le dessus, on abandonne tout ce qui est un petit peu pour se déplacer, on prend plutôt des chevaux plutôt que des voitures, etc. Et c'est un peu dans cette idée-là. Voilà. Mais ça se fait doucement, c'est pas du tout quelque chose qui est mal vécu, au contraire, bon bah c'est naturel. On a pris l'habitude de quitter la voiture, on a pris l'habitude de et puis des mauvaises habitudes aussi. L'eau est devenue très chère. Voilà, et la chaleur évidemment est beaucoup plus présente puisque l'histoire se déroule principalement en hiver. Et en fait, en hiver, il fait quand même 20 degrés le soir et très chaud dans la journée. Voilà.
Et qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire cette histoire?
Eh bien, c'est l'évolution actuelle, autant l'évolution climatique que l'évolution sociale, dans la mesure où on nous dit que le climat évolue, et ça, j'en suis un peu convaincu quand même, d'autant que les repérages, je les ai faits en 2022, en juillet 2022, il faisait très très chaud, alors vraiment très chaud, et on nous annonçait que cet été-là allait se reproduire régulièrement. Ça n'a pas été le cas, mais effectivement, les températures remonte régulièrement et on peut très bien s'imaginer que dans 200 ans des températures de plus de 50 en été ce soit courant. Et j'ai même rencontré un professeur de la Cato et je lui en ai parlé, il m'a dit effectivement ton histoire hein, c'est un peu de la science-fiction parce que s'il fait 50 degrés dans la journée, personne pourra organiser de fête. Or comme il y a une fête, comme on ne peut pas la faire dans la journée, on la fait la nuit. Voilà.
Et est-ce que, justement, il y a un message écologique ou social, justement, dans ce film?
Alors, je ne sais pas. Ça dépendra de l'accueil du public. Oui, bien sûr, il y en a une partie. Mais pour intéresser vraiment à ce sentiment, à cette prise de conscience, je passe par une histoire policière. Il y a une intrigue du début à la fin qui fait que on oublie un petit peu les inconvénients, enfin les caractéristiques de cette époque pour s'intéresser un petit peu à l'histoire. Et puis de temps en temps, quand même, il y a des rappels, justement, où l'eau est chère, où les gens se déplacent plutôt à cheval, où on fait très attention à son environnement, et voilà.
Vous venez de le dire, votre personnage principal, donc Franck, si je ne me trompe pas,
oui.
Il revient après 20 ans de prison pour un crime qu'il n'a pas commis.
Oui.
Pourquoi avoir choisi cet angle narratif ?
Alors parce que j'aime bien les films policiers, d'une part. J'aime bien les films policiers, j'aime bien les westerns. Et bon, je n'aurais jamais eu les moyens de faire un western. J'ai fait des films policiers, plutôt en court-métrage d'ailleurs. Et c'est pour ça que je suis aussi passé par cette idée... qui permet de tourner quand même dans la région, de ne pas mettre trop de, comment dire, un budget trop important pour la réalisation, et tout en gardant un côté assez sympathique. Voilà. Et le côté policier, ça permet beaucoup de choses. Hein. On peut faire dire plein de, comment dire, plein de messages à travers les personnages.
Voilà. Comment vous avez imaginé tout le côté esthétique du film, un petit peu l'atmosphère de ce monde dystopique ?
Alors, c'est tout simple, hein, puisqu'on on revient un petit peu sur ce qui existe. Donc, c'est relativement facile. Ça aurait été beaucoup plus compliqué d'imaginer un futur où avec, alors, comme je disais tout à l'heure, avec des soucoupes volantes ou avec des fusées qui partent partout, là c'était un petit peu plus simple. Mais ça, je pense quelque part que ça fait partie des possibilités. Je n'ai aucune connaissance scientifique, je ne sais pas du tout si dans 200 ans, en plus l'avantage c'est que personne ne sera là pour nous contredire, donc on peut inventer un petit peu ce que l'on veut, mais c'est une possibilité que l'on revienne petit à petit, hein, sans violence, mais qu'on revienne à des notions un petit peu plus simples et à une vie telle qu'ont pu le connaître nos aïeux dans les années 1900. C'est tout à fait envisageable.
Donc c'est un film qui mêle un petit peu science-fiction d'un côté et un petit peu polar de l'autre. Comment vous arrivez à trouver l'équilibre entre les deux ?
Alors, je ne sais pas si j'ai trouvé. Je sais pas trop en parler. Si vous voulez, je peux parler des conditions de tournage, de d'autres choses. Sur ces sujets-là, c'est plus les spectateurs qui ont l'air d'avoir compris quand même. Enfin, moi, je suis content quand les spectateurs me parlent à la fois de l'aspect policier en disant, on a été captivés, c'était bien et tout, etc. Et que d'autres, ou les mêmes d'ailleurs, me disent, ah, puis alors le côté futuriste, là, c'est pas mal, hein, c'est original. Bon, c'est vrai que c'est pas souvent que l'on voit le futur dans ce sens-là. On le voit plutôt au contraire, multipliant les gadgets, etc. Et c'est pas évident. Cela dit, les gadgets actuels, pour moi, existeront toujours, mais seront devenus très chers. Tout ce qui est plastique sera quand même plus ou moins banni, mais ça existe, hein, on va pas le faire disparaître, hélas, on va pas le faire disparaître dans les semaines à venir, hein, c'est sûr.
Et si on revient alors sur l'aspect un petit peu plus tournage, comment vous avez fait comment vous avez travaillé avec les acteurs pour donner vie à tout cet univers et ces personnages ?
Alors, on donne vie avec les acteurs. Alors, il y a les acteurs, bien sûr, puis il y a aussi l'équipe technique qui compte beaucoup, puisque c'est quand même l'équipe technique que je connais depuis une vingtaine d'années maintenant, à peu près, qui me suit et qui me fait un peu confiance. Et donc, on a beaucoup repéré. On n'a pas fait de répétition avec les acteurs. Mais par contre, chaque acteur avait la biographie de son personnage, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages, il va y avoir une quinzaine. Et j'écris une bio assez courte, mais à tous les acteurs pour qu'ils sachent exactement quel est leur personnage, quand est-ce qu'il est né, ce qui lui est arrivé. Voilà. Et après, on en parle, évidemment. Les acteurs se sont relativement peu rencontrés et tout a vraiment démarré le premier jour de tournage et on est parti comme ça. On avait fait donc quand même des repérages. Comme tout a été tourné à Soulères-et-Bourg, là, on a été très bien accueillis, à la fois par la population et par la municipalité. On a eu des salles, enfin, c'est vraiment très bien. Et on a fait une petite réunion quand même publique pour expliquer aux gens qu'ils souhaitaient, aux habitants de Soulerébourg, ce qu'était le film et ce qu'on attendait d'eux, parce qu'ils ont été quand même beaucoup figurants du film. Et c'est comme ça qu'est née un petit peu l'atmosphère. J'ai développé l'atmosphère, je leur dis, voilà, ça se passe dans 200 ans, mais imaginez que c'est comme, plus exactement, l'ambiance il y a à peu près un siècle. Mais vous ne vous habillez pas comme il y a un siècle, vous habitez plutôt normalement, voilà.
Jean-François, vous restez avec nous. On redonnera donc, pareil, toutes les infos pratiques en fin d'émission, la date où réserver vos billets. Mais juste avant tout ça, on va passer à l'édito impro avec toi, Charles.
L'édito impro de Topette avec Charles.
Salut les copains, salut Nolwenn, salut Pierre Benoît, salut les improvisants angevins, comment ça va tout le monde?
Ça va, ce que je te propose c'est qu'il y a Willy qui était là avec nous hier, qui est bloqué à la porte du studio. Nolwenn, on peut lui ouvrir ou pas? Il va participer
J'arrive.
Avec nous à l'impro.
Ça c'est bien ça.
On sait qu'il
ça,
tourne.
Toujours plus de copains dans la famille, ça fait plaisir.
Parce que justement on va parler d'impro, Charles, ce soir,
bah oui.
Alors on va faire un truc un petit peu en roue libre, on sait quoi, c'est sujet libre, on va pouvoir échanger, te poser des questions à la volée.
Ouais c'est ça, parce que en fait un truc que j'avais, que je fais depuis le début, c'est que je fais des trucs qui sont très écrits sur des sujets, etc. etc. Et on n'a pas encore mis en place ce système-là où on décroche le téléphone. Donc je me suis dit, c'est vous qui allez faire semblant d'appeler pour poser des questions.
Et justement, Nolwenn, je crois qu'on a un premier auditeur qui est avec nous. Willy, viens avec nous, s'il te plaît. Alors, t'étais là hier dans Topette pour nous parler de cours en folie. Tu reviens ce soir de manière impromptue, puisque t'étais de passage dans les couloirs. Willy, il est tout le temps là, de toute façon, à Radio G.
Salut Willy.
Et justement, salut. L'improvisation, toi qui connais un petit peu le milieu artistique, théâtral, même les vidéos, est-ce que t'as des questions à poser au grand Charles qui est là avec nous ce
grand
soir?
Grand Charles, carrément, man.
Bah écoute, je ne sais pas parce que j'ai pas entendu pourquoi il est là.
Ah, édito impro, Charles, c'est vrai que tu pourrais te représenter à vous.
Oui, c'est ça. Bah, en fait, nous, on fait de l'édito impro. En fait, on parle de l'actualité, on parle de la discipline de l'improvisation théâtrale, mais pas que, hein, dans le sens où on fait du match, on parle du match, on parle du cabaret. T'as déjà vu du match d'improvisation ou bien?
Pas du tout.
D'accord. Bah, en fait, pour les néophytes, c'est assez simple. Hein. C'est un jeu théâtral qui oppose deux équipes dans une aire de jeu qu'on appelle la patinoire. Et en fait, il y a un arbitre qui donne des thèmes et nous, on crée devant le public ça. On crée des histoire devant public. Et ce week-end, justement, la compagnie Les Expressions, on était au festival Ça Chauffe, que vous connaissez assurément à Topette, et on a clos le festival Ça Chauffe avec un match d'improvisation 2 contre 2 en une seule période, 1h45.
On m'a décrit, moi, j'avais des reporters sur place,
ouais.
Une énergie incroyable.
Ah bah il fallait hein, quand même, hein, parce que l'énergie en impro c'est hyper important, c'est un jeu d'énergie. L'impro c'est un jeu théâtral bien sûr, mais c'est un jeu d'énergie et de mental qui est hyper important.
Alors là, on est dans le cadre du match d'improvisation dont tu nous parles, c'est ta spécialité,
ouais.
Qui prend pour thématique l'outil improvisation, qui est une branche elle-même du théâtre d'une certaine façon,
ouais,
de la comédie au sens large. Nolwenn, toi qui maintenant prends ma place de plus en plus, l'improvisation c'est quelque chose auquel tu dois faire parfois face. Est-ce que t'as des billes maintenant, des questions, des interrogations, des situations comme ça où tu te sers de l'impro et des ressources dont Charles nous fait part deux fois dans le mois dans Topette?
En vrai, non, je suis toujours autant stressée quand il s'agit d'improviser. Bah pour l'instant, maintenant vu que j'anime un peu l'émission Topette de temps en temps, je trouve ça toujours autant difficile d'improviser. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a presque dans le sang. Ou pas, mais j'imagine que ça s'apprend. Mais j'ai pas encore trouvé toutes les astuces pour bien improviser. Je pense que ça met un peu de temps.
C'est intéressant ce que tu dis là. Je suis stressé, etc., etc. Et on en avait parlé une fois à l'édito impro. Le stress, mais à partir du moment où t'es plus stressé au théâtre ou quoi, t'es mort. Hein. Dans le sens où le stress, c'est vraiment un truc où ça te donne le top départ. C'est là où tu mets les gants et tu dois monter sur scène. Et ça même, il y a des artistes qui à des très très hauts niveaux, je parle pas au niveau de théâtre, mais je parle au niveau scénique, au sens large, hein, de la musique, ça. Quand ils jouent, quand ils remplissent des stades, en fait, ils sont tellement tétanisés qu'ils ont des gens dont le travail, c'est de les pousser sur scène, vraiment physiquement, tu sais, pour comme ça, parce que le stress, ça peut vraiment te bloquer.
Ça bloque, ouais. Et moi, ça me fait dire des tics de langage,
ouais.
Répéter des mots. Et à la radio, par exemple, c'est très moche, mais je pense que c'est le stress et le fait de devoir improviser qui me fait dire des choses comme ça et au lieu de trouver autre chose.
Ben, en fait, la première erreur qu'on a tendance à faire quand on parle d'improvisation, puis c'est ce qu'on s'est dit à Oran tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression que, allez, c'est de l'impro, on fait tout et n'importe quoi. Et ça. Moi, j'ai pour dire que l'improvisation, c'est, tu sais pas où tu vas, mais tu sais ce que tu fais. Dans le sens que il y a un truc où quand tu prends de la guitare par exemple, si tu prends des personnes qui font des jams, qui font des buffs en improvisation musicale, ils connaissent leur guitare, ils connaissent leur piano. Le jazz c'est vraiment tu connais tellement ton instrument que tu connais tellement les codes de ton instrument que tu peux te permettre de sortir de ces codes là. Et au niveau théâtral c'est exactement la même chose. Dans le sens que je dis pas qu'on est des spécialistes du théâtre ça. Mais il y a des codes, dans le sens que si tu prends une improvisation type western, par exemple, il va avoir des codes. Il va avoir des codes d'écriture, mais il va avoir des codes aussi que le public a, des références que le public a. Le fameux « ouin, ouin, ouin », tu vois, ça, c'est sûr que ça va attirer un rire public parce que t'as un partage avec partage de connaissances avec le public là-dessus. Mais, à travers tout ça, c'est aussi une rythmique, c'est une manière de se poser, une manière de se placer sur scène, etc. Donc, c'est, en soi, on est tous des grands stressés.
Tu sais pas où tu vas, mais tu sais ce que tu fais. Willy, est-ce que c'est quelque chose dont tu te vois avoir un petit peu cette doctrine de vie, parfois dans certaines situations, tu maîtrises ton sujet, mais, tu sais pas exactement où est-ce que ça va aboutir pour l'instant?
Oui. Oui, assez fréquemment, ouais. Ouais, ouais. Là, je suis en train de rechercher des. Si j'ai des anecdotes, mais non, mais.
Ben, en fait, tu vois, c'est drôle parce que vous donnez exactement l'exemple là, sur scène, là, présentement. En soi, là, présentement, ce que Willy a, il y a un shutdown, il est noyé, mais il n'est pas noyé dans l'absence d'idées, il est noyé dans le trop d'idées. En fait, c'est que il y a. Dans le sens où il y a. Plusieurs idées, il y a plusieurs anecdotes qui lui viennent en tête et sa tête est en train de classer en live devant les gens, de dire ok, laquelle est la plus intéressante.
Et ça prend du temps, ça prend du temps et on n'a pas le temps quand on est sur scène ou dans un cadre
souvent,
de représentation.
C'est ça, mais ça on va le meubler par ce que tu dis, ce qu'on appelle des béquilles, hein, ah oui, tu penses, ou voilà. Donc il y a des trucs comme ça. Moi je sais ma béquille, c'est je vais faire des souvent, tout le temps, tu sais. Mais chacun son truc, quoi.
Du coup, Willy, il est en shutdown. C'était ça le principe. Merci beaucoup, Charles. Bon, avant de redonner la parole au flux de l'émission, au cours de l'émission et à Nolwenn et ses invités, Charles, peut-être des actus fortes concernant l'improvisation. Là, on revient sur non plus l'outil, mais la discipline, mais la compétition, les matchs d'impro dont tu es. Le représentant le plus fier.
Ouais, ouais. Écoute, là, il y en a pas mal hein, qui arrivent. Hein, de toute façon, mais moi, je vais en profiter pour mettre vraiment un événement qui va être vraiment en lumière. C'est celui qui va avoir lieu samedi à 14h au château du Plessis-Massin. Ça va être une rencontre de l'impro. C'est l'ensemble des collèges qui font partie du trophée du 49 qui vont se retrouver dans un gala où chaque collège va faire 4 représentations. Tout le monde va se rencontrer. C'est vraiment des rencontres de l'impro pour que les joueurs qui sont en 3e et qui sont en 4e soient initiés au match d'impro pour la première fois devant public. Et en plus, ce qui fait la particularité de chez nous dans le 49, c'est que l'arbitrage va être tenu par des joueurs et des joueuses du niveau lycée, donc du niveau junior en associatif. Là, il y en a 3 qui font partie de ça. Donc, les Impropulsifs à Bretelles de Saumur. Il y a les Salut c'est l'impro de Beaucouzet et l'Image noire de Trélazin qui vont assurer l'arbitrage de ce tournoi-là. C'est hyper important parce que ce qu'on met le point là-dessus, c'est l'apprentissage. Tout le monde va être à sa première fois.
Je suis toujours fasciné par les noms des équipes de
match
d'improvisation,
c'est fort,
les Bretelles
c'est
et tout ça. Ouais. Bon, on se retrouve dans 2 semaines et puis Nolwenn, on continue avec notre sujet de ce soir.
Eh bien, on termine même, Pierre Benoît, avec nos invités de ce soir, puisqu'il est venu l'heure de nous quitter dans quelques minutes. Si on reprend nos invités dans l'ordre en début d'émission, on était avec Antoine Legros, fondateur des Épices Curieuses. Antoine, qu'est-ce qu'on peut retrouver en quelques mots sur ton site ?
Des produits, des conseils, des astuces, comment les travailler directement sur le site. Le site lesépicesqueuses.com.
Et si on veut commander, comment ça se passe? Où est-ce que la livraison se passe? Tout à l'heure, tu parlais de magasins avec qui tu es en partenariat.
En fait, je suis consommateur avant d'être commerçant. Et en tant que consommateur, le truc qui est rédhibitoire, c'est les frais de port.
Donc, ce qu'on a mis en place pour le Maine-et-Loire, c'est de proposer un partenariat avec les boutiques avec qui je travaille, ce qu'on appelle un click and collect. Donc, en gros, tu commandes sur le site et à la fin du processus, t'as les boutiques avec qui on travaille. Donc, on va avoir Petit Pois Carottes, on va avoir l'épicerie Racine, DL et des Gourmets avec qui on travaille. Donc, on peut retrouver nos produits là-bas. Mais si tu veux commander sur le site, tu peux les commander, te faire livrer là-bas sans frais de port avec un délai un peu plus important.
Et si on peut rappeler peut-être le nom du site internet et des réseaux sociaux si on veut retrouver toutes les infos?
Eh bien, pour tout le monde, c'est Les Épices Curieuses. Donc, le site, c'est lesépicescurieuses.com. Donc, les-épices-curieuses.com. Et les réseaux sociaux, c'est Les Épices Curieuses, Facebook et Instagram. Et si jamais t'es amateur, plutôt sur Instagram, où là, on va être hyper actif. Bah, ma femme fait la partie réseaux sociaux. On retrouve vraiment tous les conseils, les astuces, les petits, ce qu'on appelle les petits tips, le petit plus qui va bien.
On ira faire un tour pour nos prochaines recettes. Merci beaucoup Antoine d'être venu dans l'émission. En deuxième partie, donc on était avec Jean-François Goujon, réalisateur du film Hallucination. Ça passera donc le 27 février aux 400 coups.
Oui.
Jean-François, si vous deviez donner envie aux auditeurs d'aller voir le film en quelques mots, comment vous pourriez le décrire?
Je décris que c'est un film. Alors effectivement, c'est un film futuriste, mais qui n'est pas un film de science-fiction. Avec une intrigue policière qui, normalement, dès le départ et nous tient jusqu'à la fin. Voilà.
Et si le 27 février, on veut se rendre aux 400 coups, comment on fait pour réserver?
Ça peut être sur le site des 400 coups directement ou sur le guichet en arrivant. Voilà. Et nous avons autrement un site internet, bien sûr, Chemin Production, Facebook Chemin Production et un compte Insta Chemin Production.
Parfait, voilà. On note tout ça, on donne rendez-vous à nos auditeurs le 27 février aux 400 coups. Nous, pour la fin de la semaine, on sera très en culture puisque demain, on parlera d'une exposition photo à la Tour Saint-Aubin en mars prochain. Jeudi, on sera avec le quai et moi, je vous dis à demain et topette.
FM.
Savourez nos différences.